Le bulletin du handicap.
Alors en manchette aujourd'hui, le CRIR, autrement dit le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, recherche des candidats aveugles ou malvoyants pour une expérience dans le centre d'achat Alexis Nion. 30 ans d'inclusion dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Bénévoles recherchés en Beauce. Tennis en fauteuil roulant, Philippe Bédard, double champion à Welland. Alors, le docteur Florian Grond, G-R-O-N-D, du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, cherche des candidats pour une expérience dans le centre d'achat Alexis Nion à Montréal. Les candidats adultes de 18 à 64 ans doivent être assez à l'aise pour utiliser l'écran tactile d'un téléphone cellulaire et sans restriction de mobilité. Pour cette expérience, nous cherchons des personnes aveugles ou malvoyantes qui utilisent principalement l'ouïe pour s'orienter dans l'espace public. Et dans cette expérience, on vous demandera de trouver les entrées de plusieurs magasins en suivant des sons venant de petits haut-parleurs installés dans le centre d'achat. Ces sons peuvent être lancés et contrôlés par un téléphone cellulaire. Le but de cette expérience est de valider la fonction des sons comme aide à la navigation et à l'orientation dans un environnement bruyant. L'expérience au complet durera à peu près 60 minutes. Vous devrez vous déplacer par vous-même, par taxi ou métro. Il faut aller à la station Atwater sur la ligne verte jusqu'à l'entrée du centre d'achat où on vous accueillera. Vous serez aussi accompagné au taxi ou à la station de métro. Après l'expérience, vous recevrez une compensation pour vos dépenses de transport. Pour en savoir plus, s'il vous plaît, contactez le docteur Florian Grond, G-R-O-N-D, par courriel à l'adresse suivante. Florian Grond, donc F-L-O-R-I-A-N-G-R-O-N-D, c'est vraiment comme ça se prononce, @gmail.com. Il y a 30 ans, le Nouveau-Brunswick adoptait une loi qui allait radicalement changer les écoles de la province. En transformant la loi scolaire, la province décidait de regrouper les élèves à besoins spéciaux, les surdoués et les élèves réguliers, dans une même classe. Avec le début de l'intégration, les élèves souffrant d'un handicap se joignent aux élèves de l'école publique. C'est la fin des classes spéciales dans les écoles ségrégées, comme on les appelait à l'époque. Jacinthe Soucy, aujourd'hui retraitée, a enseigné pendant 17 ans à l'école pour enfants à besoins spéciaux de Grand Sault et une quinzaine d'années par la suite à l'école publique. Elle se souvient des craintes de certains enseignants au moment de la transition vers un système plus inclusif. Elle dit « Je me souviens d'avoir fait une session avec les enseignants du district pour leur parler de nos élèves, leurs besoins et leur montrer que c'était des humains comme eux autres. » La peur était aussi présente chez les parents des élèves à besoins spéciaux. Certains parents, souligne l'enseignante à la retraite, avaient peur que leurs enfants soient victimes d'intimidation. Cette inquiétude existait à l'époque également du côté des parents des enfants qui fréquentaient l'école publique, se souvient Léonard Gauguin, co-auteur d'un rapport qui allait paver la voie à l'inclusion dans les écoles de la province. Plusieurs ont eu peur que maintenant le temps de l'enseignement soit consacré aux élèves en difficulté, a-t-il dit. Il y a eu des personnes qui ont voulu résister à ces changements, affirme M. Gauguin. Pourtant, ces changements étaient nécessaires, selon lui, pour améliorer le traitement des élèves à besoins spéciaux et pour sensibiliser les enfants aux différences dans la communauté. Le projet de l'intégration dans les écoles a été inspiré par une tendance internationale qui se dégageait dans les années 80, raconte Léonard Gauguin, qui a également été professeur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Moncton. Aux États-Unis, on venait de passer une loi pour que toutes les écoles offrent des services aux enfants en difficulté. C'était aussi une tendance nationale. On retrouvait ça en Ontario, en Saskatchewan. Il y avait cette tendance d'offrir les services aux élèves dans le milieu le moins contraignant possible, qui respectait de plus, le plus la communauté ou les groupes, au lieu que les enfants soient amenés dans une école spéciale. Ce projet d'intégration devrait toutefois se faire, selon ses recommandations de l'époque, en déployant des ressources additionnelles dans le système scolaire. Ça a quand même été difficile à mettre en place, ajoute M. Goggen. Ça impliquait de la formation des enseignants, avoir du personnel de soutien pour aider les enseignants à travailler. Une des choses qu'on avait placées dans notre rapport, c'était le financement assuré. Je pense que ça a eu de la difficulté avec le temps. L'enseignante à la retraite, Jacinthe Soucy, dit avoir vu les bienfaits d'un système scolaire inclusif pour l'ensemble des élèves. C'était bon pour les deux groupes d'enfants d'apprendre à vivre ensemble, souligne-t-elle. Madame Soucy en a été témoin à l'école, mais aussi chez elle, puisque son fils, atteint du syndrome de Down, Daniel Soucy, a lui-même fréquenté l'école publique quelques années après la mise en place du système inclusif dans la province. Et grâce à cette inclusion, Daniel a été invité à des fêtes d'amis, il a grandi entouré d'une multitude d'enfants, il a été couronné roi du bal des finissants. Voilà, s'il avait été à l'école ségrégée ou ségrégée, je ne pense pas qu'il aurait plus de connaissances qu'aujourd'hui. Ce serait peut-être pire, souligne son père, Danny Soucy. Aujourd'hui, il a tout ce bagage, ces connaissances-là. Il a fait partie de la communauté de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est un appel à tous. Attention, Destination Loisirs 2016 est à la recherche de bénévoles pour aider à l'organisation de l'événement Destination Loisirs qui se déroulera à Saint-Georges du 2 au 5 septembre prochain. Il s'agit d'une fin de semaine de loisirs organisée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, ARLPH. Près d'Union CA, près de 500 personnes handicapées provenant de tout le Québec, principalement des personnes ayant un handicap intellectuel, seront accueillies. Le site principal de la polyvalente de Saint-Georges, sera la polyvalente de Saint-Georges, mais il y aura des activités sportives, récréatives, culturelles ou touristiques dans diverses localités de la région. Plusieurs possibilités s'offrent aux bénévoles selon leurs intérêts. En effet, nous avons besoin autant de main-d'œuvre pour aménager les lieux que de personnes pour accompagner les participants, les transporter, faire de l'animation, s'occuper de la sécurité, etc., ajoute la présidente. Alors, pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site web de l'événement au www.destination au singulier, loisirs au pluriel, en un seul mot, destinationloisirs.ca. Sinon, un formulaire, quand vous allez là, un formulaire en ligne est disponible sous l'onglet intitulé « Bénévole ». Et puis, Philippe Bédard a remporté mardi les titres en simple et en double à l'Open en fauteuil roulant de Niagara à Welland en Ontario. En finale du simple, l'athlète de Bromont, favori de la compétition et 51e joueur mondial, est venu à bout du jeune Américain Christopher Herrmann, deuxième tête de série et 59e au classement international en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-2. Bédard a retrouvé Herrmann en finale du double en paire avec l'Ontarien Joël Dambe. Il a cette fois gagné en deux manches de 6-2, 6-0 contre l'Américain et son compatriote Connor Stroud. Bédard est actuellement dans l'attente concernant sa participation aux Jeux de Rio, lui qui n'a pas réussi à mettre la main sur les récents laissés-passer paralympiques octroyés. Il devait pour ce faire se retrouver parmi les 34 meilleurs au monde au classement du 23 mai. J'étais supposé défendre mes points à l'Open de Quito en avril, mais la veille de mon départ, l'organisation avait tout annulé parce que le pays avait déclaré l'état d'urgence en raison du tremblement de terre, a expliqué le vainqueur de cette compétition en 2015. Et en plus de l'Open de Quito, le Bromontois n'avait pu participer à la Coupe de Quito et s'était rabattu sur l'Open de Porto Rico où il s'était imposé. Le tournoi, cela dit, était beaucoup plus petit que ceux à Quito. Même si je l'ai emporté, je n'ai pas obtenu assez de points. Alors maintenant, il vit d'espoir parce qu'il va falloir qu'il attende la réponse de l'ITF le 20 juin prochain, à savoir si on pourra effectivement l'applaudir aux Jeux paralympiques de Rio en tennis, je vous le rappelle, en fauteuil roulant. Alors voilà ce qui met fin à ce bulletin du handicap pour lequel je remercie Christiane Campagna d'avoir fait la recherche. Maurice Bolduc, appuyé par Jean-Sébastien Laliberté à la technique, et au micro, c'était Clotilde Sey. Je vous rappelle que si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles de vos activités au canal m@vuesetvoix.com. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en s'il fait beau chez vous. À demain matin, 9h.